Frères et sœurs bien-aimés, en cette année sainte 2025, nous contemplons la naissance de notre Seigneur Jésus le Christ. Elle appartient au passé de l'histoire, mais elle nous fait vivre aujourd'hui encore. Dieu n'agit pas selon nos manières, sinon il serait venu en Dieu vengeur pour rétablir la justice. Il affirme dans l'Évangile : « Je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu pour le sauver. » Le jugement de ce monde est renvoyé au dernier jour. Et parce que ce n'est pas le Dieu vengeur qui vient à notre rencontre, il a décidé le mystère de son incarnation. Dieu, le Créateur. Dieu a donc décidé de nous sauver. Pour cela, il va envoyer tout d'abord les patriarches, puis les prophètes, auprès d'un peuple, le peuple élu d'Israël, qui figure déjà chacun d'entre nous, l'ensemble des peuples de la terre. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu décida de venir lui-même à notre rencontre. Dieu n'agit pas avec nos manières, il apparaît sous les traits de cet enfant silencieux, de cet enfant paisible, de cet enfant déjà rieur. Il est la vie du monde à venir et nous l'adorons en compagnie de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Joseph. La Vierge Marie, elle garde et médite chacun des événements de la vie du Seigneur, de ce Fils, depuis le saint jour de son annonciation où le Verbe prit chair en elle. C'est aujourd'hui l'heure de sa délivrance. Elle met au monde celui qu'elle a conçu, elle l'enfante pour nous et pour notre salut. Près d'elle se tient Saint Joseph, l'homme juste, c'est-à-dire parfaitement ajusté à la loi de Dieu. Il n'est pas le père de cet enfant, mais il se tient à l'ombre de Dieu le Père et va tenir lieu de Père terrestre à notre Seigneur Jésus le Christ. Ils adorent tous deux dans la crèche de Bethléem l'accomplissement des promesses que Dieu leur a manifestées à chacun d'entre eux, mais une promesse bien plus ancienne, celle que le genre humain que nous formons, frères et sœurs, serait sauvé, que le mal n'aurait pas le dernier mot, que le péché ne nous emporterait pas dans la tombe. Voilà pourquoi Dieu décide de venir à notre rencontre. Il prend notre chair, il devient semblable à l'un d'entre nous. Mais quel abaissement lorsque l'on est Dieu, lorsque l'on est le Tout-Puissant. Eh bien voilà le paradoxe de la grandeur divine. C'est qu'elle manifeste dans la petitesse. Alors que nous contemplons cet enfant Dieu à côté de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, nous entendons ce que les anges annoncent aux bergers. Ils annoncent non seulement aux bergers que ça y est, Dieu a enfin envoyé le Christ en grec, le Messie en hébreu, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Mais cet envoyé de Dieu n'est autre que Dieu lui-même. Voilà le grand mystère du Christ notre Seigneur. Il est véritablement homme, il est tout autant Dieu. Si chacun d'entre nous, nous partageons la nature humaine, dans le Christ se trouvent les deux natures. Et la nature divine qui, elle, n'a ni commencement ni fin, et cette nature humaine qu'il prend par amour pour nous. Il se fait homme, et tout d'abord petit enfant, car comme on le dit dans les Écritures, il est non seulement lent à la colère, plein d'amour, plein de tendresse, et bien voilà ce Dieu qui vient à notre rencontre. Plus tard, élevé par la Sainte Vierge, par Saint Joseph, par la loi de l'Ancienne Alliance,
Voilà le Seigneur dans sa vie publique qui va accomplir chacun des signes par lesquels on devait reconnaître le Messie. Rendre la vue aux aveugles, la mobilité aux paralysés, l'audition aux sourds, donner à son peuple une nourriture abondante. Et nous suivons dans l'Évangile le Seigneur rencontrer tel aveugle, le paralysé avec son brancard, comme Marie-Madeleine, la femme pécheresse. Il relève, comme il nous relèvera, non seulement de nos fautes dans le sacrement de la confession, mais tout autant du tombeau au dernier jour. N'oublions pas cette phrase des Écritures saintes, « Dieu réclame ta vie à la tombe ». Voilà pourquoi le Seigneur est bien élevé de terre, se saisit de la croix et les bras grands ouverts. Celui qui aura dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime », eh bien on donnera l'exemple saisissant. C'est par amour pour nous que ce petit enfant s'est fait homme, tout en demeurant Dieu. C'est également par amour pour nous qu'il va offrir toute sa vie sur le bois de la croix. Il va être silencieux pour toutes les fois où nous l'avons trop ramené. Il va être complètement innocent pour toutes les fois où nous sommes parfaitement coupables. Il prend sur lui chacun de nos péchés. Il porte chacune de nos souffrances et va les conduire dans l'obscurité du tombeau. Mais parce qu'il n'est pas seulement un homme parmi tant d'autres, mais parce qu'en lui se tient la nature divine, qui n'a ni commencement ni fin, lui qui est l'Éternel, lui qui est le Dieu vivant, il se relève d'entre les morts et fait de chacun d'entre nous, selon la belle expression de l'Évangile selon saint Luc, des enfants de sa résurrection. Voilà pourquoi les bergers sont étonnés. Il leur est annoncé non seulement la venue du Christ, ils en sont les contemporains, mais on nous leur affirme que ce Christ n'est autre que Dieu. Un Dieu que l'on va reconnaître dans ce petit enfant emmailloté. Emmailloté, c'est-à-dire qu'il ne peut pas bouger. Dans le symbole des Saintes Écritures, le fait que l'enfant soit déjà emmailloté, c'est la même chose que le Christ cloué en croix. Il ne pourra pas bouger. De même, le sacrifice du Christ est annoncé dans le fait que cet enfant emmailloté, celui qui reposera dans le linceul, cet enfant emmailloté est déposé dans une mangeoire. Alors saint Luc nous précise, il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune. À l'époque de notre Seigneur Jésus le Christ, au temps de son incarnation, il faut d'abord imaginer que les maisons sont placées devant des grottes, de telle sorte qu'il y a la salle commune qui est faite pour les hommes, les femmes, pour la vie de famille, pour tous ceux que l'on accueille. Et dans le renfoncement, dans la partie caverneuse, c'est là où on mettrait ce que nous appellerions les tables. N'ayant pas de place pour eux dans la salle commune, ils s'enfoncent et prennent place dans la grotte, au milieu de l'âme du bœuf, des animaux. Eh bien, c'est là que la Sainte Vierge va déposer son enfant dans la mangeoire. Parce que le Christ, eh bien, souhaite que nous le consommions. Il est le pain vivant qui descend du ciel. Il n'est pas hasardeux qu'il soit né dans la ville de Bethléem, qui signifie la ville des pains, lui qui est le pain vivant qui descend du ciel. Le mystère de la nativité, c'est celui de Dieu qui se fait homme, dont la nature divine demeure dans son humanité, et le mystère de la Sainte Messe qui réactualise le sacrifice du Christ pour nous, c'est le même abaissement. Voilà Dieu qui, cette fois, eh bien, prend toute sa place dans l'hostie consacrée. Voilà le grand mystère de Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui est capable de se dire dans la petitesse de son incarnation, la petitesse de cette hostie consacré de sa présence. Le mystère de la foi est grand. Le Seigneur attend de nous, et bien que nous soyons des veilleurs, que nous guettions dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, son retour. Alors avec la pauvreté des bergers, ce soir, nous présentons à lui, sans fanfaronnade particulière, délaissant tout orgueil et reconnaissant humblement que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de lui. puisse-t-il donc nous accorder au dernier jour la vie éternelle et la résurrection de la chair. C'est sur cette pensée que nous associons tous nos fidèles défunts, ceux qui peut-être ne seront pas avec nous autour de notre table parce qu'ils nous ont quittés cette année ou les années précédentes, et chacun d'entre nous faisons mémoire de tous les membres de sa famille qui, nous l'espérons, nous précèdent là-haut dans la cité. Et nous pensons aussi en cette nuit de Noël à nous qui pouvons librement venir prier et adorer Dieu, à tous ceux de notre Église à travers le monde qui, au péril de leur vie, parfois sous le sifflement des bombes, eh bien assistent comme nous au fait de la nativité. Nous pensons à eux, à leur foi, à leur espérance, à leur charité, qui nous engagent non seulement ici en France, mais partout dans le monde où nous avons à imiter le Christ. Imiter le Christ par la vertu d'humilité. En vous souhaitant un joyeux Noël, chers frères et sœurs, je voudrais donc que nous prions ardemment pour celui qui est présenté à nous dans la crèche comme le prince de la paix. Le Christ est au principe même de la paix. Eh bien, prions pour que cette paix gagne les cœurs, nos familles, la France et le monde. Ainsi soit-il.